Bonjour à tous et bienvenue, 10h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, le gouvernement allemand sous pression deux jours après l'attaque sanglante d'un marché de Noël. L'auteur présumé a été arrêté, il est sous les verrous. Pourquoi n'a-t-il pas été stoppé plus rapidement et pourquoi n'a-t-il pas été mis hors d'état de nuire alors que depuis longtemps il multipliait les signaux inquiétants en Allemagne? En Syrie, les nouvelles autorités provisoires se mettent en place. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense sont maintenant connus, à suivre dès le début du journal. En France, les préparatifs s'accélèrent. On devrait connaître dans les prochaines heures la composition du gouvernement de François Bayrou. D'après un sondage, ce gouvernement fera ses premiers pas avec un niveau de popularité historiquement bas. Deux semaines après la chute de Bachar al-Assad, les nouvelles autorités syriennes continuent de se mettre en place. On connaît maintenant les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. La diplomatie syrienne sera dorénavant dirigée par Assad al-Shibani. C'est lui qui devra continuer de rétablir les relations avec les pays occidentaux. Plus de précisions avec Paul Khalife.
La nomination d'Assad Hassan al-Shibani à la tête du ministère des Affaires étrangères et de Marhaf al-Qasra à la Défense illustre la volonté du groupe al-Tahrir al-Sham, HTS, de verrouiller les postes clés de la diplomatie et de la sécurité. Les deux hommes, âgés de moins de 40 ans, sont de proches lieutenants du nouvel homme fort de Damas et chef de HTS, Ahmad al-Shara, de son nom de guerre, Abu Muhammad al-Julani. Assad al-Shibani est originaire de Hasaké, dans le nord-est de la Syrie. Ce diplômé en langue et littérature anglaise de la faculté des arts et des lettres de l'université de Damas a joué un rôle de premier plan dans l'organisation de l'administration politique installée par les rebelles dans la province d'Idlib. La gestion du dossier de l'aide humanitaire dans l'ancienne enclave rebelle lui a permis de tisser des relations avec les agences des Nations Unies et des diplomates étrangers. Marhaf al-Qasra, bio-ingénieur de formation, est de son côté originaire du nord de la province centrale de Hama. En sa qualité de chef militaire de HTS, il a joué un rôle important dans l'offensive éclair lancée le 27 novembre qui a abouti à la chute du régime de Bachar al-Assad 12 jours plus tard. Il aura la tâche délicate de réunir tous les groupes rebelles au sein de la nouvelle armée syrienne. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Ahmad el-Shara, le nouvel homme fort de la Syrie, a rencontré avant-hier à Damas une délégation américaine. Il a dit sa volonté de contribuer à la paix régionale et de construire des partenariats stratégiques avec les pays voisins. La défense civile de Gaza annonce 28 morts dans plusieurs frappes nocturnes de l'armée israélienne. Parmi les victimes, 4 enfants tués dans une école abritant des déplacés. L'armée israélienne ne dément pas, elle affirme avoir ciblé des terroristes du Hamas. Après la mort de 7 autres enfants palestiniens, le pape François a condamné hier la cruauté de la frappe qui les a tués. Les États-Unis ont évité de justesse ce week-end la paralysie budgétaire au niveau fédéral. À moins d'un mois de son entrée en fonction, Donald Trump continue de former son gouvernement. Le président élu vient de nommer Mark Burnett au poste d'émissaire au Royaume-Uni. Mark Burnett n'est autre que le créateur et le producteur de l'émission The Apprentice, émission présentée durant de longues années par Donald Trump. Correspondance de Lubna Anaki.
Donald Trump a fait son annonce sur son réseau social Truth Social. Mark Burnett apportera un mélange unique d'expertise diplomatique et de reconnaissance internationale pour ce rôle important, a écrit le président élu. Âgé de 64 ans, Mark Burnett est un ami de longue date du républicain puisqu'il a créé et coproduit l'émission de télé-réalité The Apprentice qui a rendu célèbre Donald Trump avec notamment sa phrase culte « You are fired », vous êtes viré. Même s'il était déjà connu, cette émission a fait entrer Donald Trump dans des millions de foyers américain et construit son image d'homme d'affaires à succès. Mais avec sa longue carrière dans le divertissement, Mark Burnett n'a pas d'expérience en diplomatie et en politique internationale. Sa nomination comme émissaire au Royaume-Uni ne nécessite pas de vote au Sénat et elle s'ajoute à la longue liste de noms venus du milieu des affaires ou du divertissement choisis par Donald Trump, comme l'ancienne patronne du catch américain qui devrait diriger le département de l'éducation ou encore l'ancien joueur de football américain nommé ambassadeur. Lubna Anaki, New York, RFI.
À Mayotte, dévastée il y a 8 jours par un cyclone, l'aide parvient peu à peu aux habitants, notamment l'eau potable. Elle est en partie accessible à Mamoudzou, le chef-lieu de l'archipel. À cela s'ajoutent des distributions de packs d'eau. Un gros conteneur doit livrer ce dimanche 1 600 000 litres d'eau à Mayotte, où le bilan provisoire du cyclone s'élève à 35 morts et 2 500 blessés, dont 78 grièvement. Et puis au Mozambique, touché lui aussi, le bilan s'aggrave avec 94 morts. Les avancées des pays les plus pauvres sont au point mort, c'est la Banque mondiale qui l'affirme. Depuis l'an 2000, 39 pays à faible revenu, dont le Kenya, ont rejoint le club des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire dont le PIB par habitant dépasse 1 145 $ par an. Il reste 26 pays à faible revenu, dont 22 sont situés en Afrique subsaharienne. Claire Fage.
Avec une croissance en dessous de 0,1% par habitant et par an, ces 26 pays sont 30% plus pauvres que leurs prédécesseurs ne l'étaient en l'an 2000 pour des raisons multiples, explique Philippe Kenworthy, économiste senior à la Banque mondiale.
Dans certains cas, c'est à cause des conflits. Dans d'autres cas, à cause d'une crise de la dette, parce que les pays voisins traversent des temps difficiles et qu'il y a peu d'opportunités de commerce régional. Dans d'autres cas, c'est l'instabilité politique qui éloigne les investisseurs.
Outre les remèdes internes comme le retour à la stabilité, une meilleure productivité agricole, un cadre fiscal et monétaire plus robuste pour affronter les chocs, en particulier climatiques, le soutien de la communauté internationale est plus urgent que jamais, estime l'économiste.
Si l'on procède à des allègements de dette insuffisants ou trop lents, on repousse le problème de plusieurs années. On en reste au même point et tout le monde est perdant. La communauté internationale doit allouer suffisamment de financement préférentiel vers ces pays pour maximiser leurs chances de sortir de la pauvreté et d'investir dans une croissance verte et résiliente pour le futur.
Malheureusement, si le fonds d'aide IDA de la Banque mondiale a été reconstitué à un niveau record, l'institution financière internationale en empruntera les 3/4 sur les marchés financiers, avec à la clé des taux d'intérêt qui risquent de dissuader les pays les plus pauvres d'y recourir.
En Allemagne, les suites de l'attaque d'un marché de Noël vendredi soir, attaque qui a été fatale à 5 personnes, plus de 200 autres ont été blessés à des degrés de gravité divers. Présenté à un juge hier soir, l'auteur présumé a été placé en détention provisoire. Sous pression, le gouvernement Scholz est sommé de répondre à des questions. Cet homme, un médecin psychiatre d'origine saoudienne, n'aurait-il pas dû être stoppé bien plus tôt? Et pourquoi n'a-t-il pas été mis hors d'état de nuire alors que depuis des années, il multipliait les signaux inquiétants en Allemagne. En France, la formation du nouveau gouvernement dirigé par François Bayrou avance. Une annonce est attendue dans les prochaines heures. Le patron du Modem peaufine son équipe qu'il souhaite resserrer et la plus ouverte possible. Une chose est sûre, il entame sa mission avec une cote de popularité historiquement basse. 66% des Français se disent mécontents du chef du gouvernement centriste, baromètre IFOP JDD. Enfin, direction l'Angleterre, pays qui raffole du jeu de fléchettes. Considéré comme le petit prodige, le phénomène Luke Littell s'est qualifié hier soir à Londres pour le 3e tour des championnats du monde. À 17 ans à peine, il est devenu en quelques mois la coqueluche du public anglais à Londres. Correspondance de Sarah Menaï.
C'était le main event ce samedi soir à Alexandra Palace, la Mecque des fans de fléchettes. Devant près de 4000 spectateurs qui, tradition oblige, étaient déguisés en Père Noël ou en banane, Luke de Nuke Littler a fait son entrée en piste. La bombe nucléaire, comme le surnomment les Anglais, inconnue du grand public il y a encore un an, et cette année plus populaire au Royaume-Uni en termes de recherche Google que le Premier ministre Keir Starmer, élu au mois de juillet. Ce samedi, Luke Littler n'a pas déçu ses supporters. Le natif du nord-ouest de l'Angleterre a battu, non sans difficulté, son adversaire du jour, son compatriote Ryan Mickle. Littler, avec une nervosité normale pour un jeune athlète et même une émotion non dissimulée en fin de match.
J'étais un peu anxieux. Il a fallu que j'aille trouver la force en moi d'aller gagner ce match. J'ai voulu répondre à des questions tout de suite après le match, mais j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je me suis demandé ce qu'il m'arrivait. Les supporters ont été incroyables, mais c'était juste un peu trop d'émotions pour pouvoir m'exprimer.
Le rituel culinaire de Luke Littler après une victoire, un kebab ou une pizza, un régime d'adolescent pour un sportif hors normes. Sarah Menei, Londres, RFI.
Un tout dernier mot de boxe, Oleksandr Usyk est bien le meilleur. 7 mois après leur premier combat, l'Ukrainien a de nouveau battu hier soir à Riyad Tyson Fury. Très bonne journée sur RFI. Elle continue avec Religion du Monde.